Vous écoutez
RMC.
5h-7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RMC et RMC Story. C'est parti pour le morning. Bonjour Élise.
Salut Mathieu.
Comment ça va?
Bonjour à tous. Quel touffeur. Il fait très chaud.
Ah ouais.
C'est très dur là.
On est en plein dedans là. Ouais. Géraldine.
Chaud aussi. Bonjour à tous.
Géraldine vigilante. Depuis le début de l'année, en termes de vigilance météo, on est pas mal. Hein.
Ouais, on est
là,
pas mal.
On est parti sur le show. Oui.
Géraldine est en rouge comme ses cartes.
Oui, j'ai hésité à mettre en rouge, mais
effectivement, cette saison.
Vigilance canicule orange. Hein. 8 départements en vigilance orange. Ouais. C'est historique. Hein.
Au mois de mai. Évidemment. Alors on va y revenir. La chaleur, c'est record battu hier. Qui dit mieux aujourd'hui? Il va faire très chaud. Vous avez déjà d'ailleurs très chaud au réveil. Vous nous dites quelle température vous avez chez vous ce matin sur le tableau de bord de la voiture. Tiens, avant le lever du soleil, quelle température vous témoignez au 32-16 sur le WhatsApp RMC 06-12-424-424.
Et puisque vous avez bien dormi, comment s'est passée la nuit? Est-ce que vous arrivez à vous adapter à cette vague de chaleur inédite pour un mois de mai? Vous nous partagez vos petits trucs, vos petites astuces pour supporter parce que c'est fini le week-end de 3 jours. Faut retourner au boulot pour beaucoup ce matin. Est-ce qu'on adapte les horaires chez vous, dans votre entreprise, la charge de travail? Ça dépend évidemment des métiers. Mais pensez aux boulangers derrière leur four, aux couvreurs sur leur toit notamment.
Les jambes qui deviennent de plus en plus lourdes. Le casque chez nous est obligatoire, le casque muni d'une jugulaire en plus, donc ça, sensation d'étouffement.
Et puis il faut retourner à l'école aussi. Oui. Comment est-ce que c'est isolé, aéré dans la classe de vos enfants?
Des brumisateurs à emporter dans le cartable le matin, des bouteilles d'eau fraîche. On les envoie parce qu'on ne va pas non plus leur faire rater l'école, mais c'est vrai qu'on n'est pas très serein. C'est inquiétant quoi, de laisser des enfants avec une telle chaleur toute la journée.
On va aussi parler de votre routine sportive ce matin. Beaucoup d'accidents, de malaises, des décès même lors de compétitions sportives ce week-end. Vous avez l'habitude de faire du sport, de courir, de faire du vélo. Est-ce que vous maintenez l'allure ou est-ce que ça vous fait un peu peur? La ministre des Sports sera sur RMC à 7h40, mais déjà on veut vous entendre au 32-16.
Ce matin, on va parler d'intelligence artificielle, ce qu'elle nous apporte et pourquoi elle nous inquiète. Deux débats. D'abord, le projet de loi Riposte du ministre de l'Intérieur. Il propose de prolonger et d'étendre l'usage de l'IA dans les caméras de vidéosurveillance. Bonne idée pour sécuriser des lieux stratégiques, des rassemblements sur la voie publique ou au contraire, est-ce que vous y voyez une généralisation de la surveillance?
Est-ce que c'est du flicage? Et surtout, est-ce qu'on peut laisser faire l'IA en la matière? Vous réagissez, vous prenez part au débat ce matin. Et puis, on va aussi parler des intelligences artificielles qui aident les enfants à réviser. En ce moment, on en a parlé la semaine dernière. Est-ce que vous vous servez de l'IA, vous, au quotidien, avec vos enfants, dans le boulot? Est-ce qu'il faut se l'approprier ou la craindre? Même le pape, et ça, je vais vous en parler, mais en garde contre l'IA cette semaine. Parle ce matin.
Et puis alors un autre sujet de débat, Action, l'enseigne Action, régulièrement classée enseigne préférée des Français, des habitants et des élus, proteste contre l'implantation d'un entrepôt géant dans l'Oise. C'est de l'emploi, de la croissance, mais c'est aussi de l'artificialisation de terres agricoles sur 100 000 mètres carrés.
Et c'est toujours le même débat, on veut des œufs mais pas de poulailler près de chez soi. Est-ce qu'on veut des magasins Action mais pas leurs entrepôts? Est-ce qu'il faut craindre ce développement et les 500 camions qui passeront chaque jour? Clément vous attend au standard 3216 et le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424.
Et puis alors dans cette touffeur estivale, alors qu'on est encore au printemps, on va vous aérer l'esprit, on va jouer, on va vous faire gagner. Vous allez jouer gros, le jeu de la liste des 26. Ce matin, vous allez peut-être remporter 10 000 euros dans le morning. 10 000 euros, rien que ça.
10 000 euros ou le pack Coupe du Monde.
Ce qui est pas mal non plus.
Ouais,
hein.
C'est pas mal. Un vidéoprojecteur, maillot des Bleus, ballon officiel, boîte Lego du trophée. Restez bien à l'écoute, il y aura un top inscription et vous aurez 5 minutes pour jouer.
Et puis alors, il y a le mot caché. À n'importe quel moment du morning, on va prononcer un mot qui sort de l'ordinaire. Je peux vous dire, et c'est très rare qu'avant 5 heures, il a déjà été prononcé deux fois.
Et d'actualité.
Un mot qui sort de l'ordinaire. Si vous l'avez identifié, vous envoyez mot par SMS au 732-16.
Et vous pourrez gagner votre montre Kelton, la marque icône pop de l'horlogerie française qui fête ses 70 ans. Elles sont magnifiques. Donc n'hésitez pas.
Mot au 732-16. Allez, la star de la semaine, Géraldine Debory. Combien de records hier?
Plus de 350 records en température maximale sont tombés hier. Et évidemment, on a eu, comme prévu, la journée la plus chaude jamais vue pour un mois de mai. Avec un indicateur thermique national de 24,3 degrés, on était 7,6 degrés au-dessus de la normale, ce qui est absolument énorme. Donc on est en vigilance canicule, 8 départements, vigilance orange canicule dans le nord-ouest. Il y a le Finistère, le Morbihan, la Manche, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Vendée. 20 autres départements sont en vigilance vigilance jaune canicule. Et puis donc aujourd'hui, les températures qui vont encore s'envoler. On risque d'améliorer encore les records d'hier avec les 20 degrés qui sont facilement dépassés dans l'ouest encore cette nuit. Cet après-midi, on attend jusqu'à 36 degrés à Nantes, 35 à Bordeaux, Biarritz, Limoges, Rennes ou encore Bourges, 34 à Paris, Brest, Lyon, 33 à Clermont-Ferrand, La Rochelle, 32 à Lille, Marseille. Il fait un peu moins chaud près de la Méditerranée avec 27 degrés à Ajaccio et ça va durer puisqu'il faudra attendre au moins dimanche pour respirer un petit peu mieux.
Il est 5h sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et à 5h, c'est l'heure de retrouver Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
À la une, de très gros retards dans les trains encore ce matin.
Une demi-journée de retard. Vous allez voir, entre Paris et le Sud-Est, deux TGV sont tombés en panne hier après-midi près de Lyon, certainement à cause de la chaleur, provoquant encore des soucis là, au moment où on se parle. Il y a encore eu des noyades mortelles hier, deux en Bretagne et une en Seine-et-Marne. Et puis tiens, on va vous faire revivre ce matin sur RMC la soirée d'adieu de Gaël Monfils, battu hier soir pour son tout dernier Roland Garros.
Ce n'est toujours pas le retour à la normale hein, ce matin dans les trains.
Les trafics perturbés donc encore sur la ligne à grande vitesse entre Paris et le sud-est de la France où deux trains sont restés coincés, deux TGV de longues heures et en pleine chaleur d'ailleurs hier après-midi, c'était au nord de Lyon. La faute à un défaut d'alimentation électrique, ça c'est un classique hein, des fortes chaleurs provoquant des retards en cascade jusqu'à cette nuit, que ce soit à Paris ou à Marseille, où on attend encore l'arrivée d'un TGV à Marseille, parti hier à 17h de la capitale, et où d'autres voyageurs sont arrivés un petit peu plus tôt dans la nuit. On parle quand même d'une demi-journée de retard.
C'est très très long, ça fait 12 heures qu'on est dans le train. Ça a été un enfer, vraiment. Je suis parti à 12h56. Là, il est 1h13.
Ils nous ont laissé enfermer pendant une heure et quart avec les enfants, à presque 50 degrés. La clim ne marchait plus.
Les gens commençaient à tourner de l'œil et à dire qu'ils se sentaient très mal. Donc on a dû vraiment demander à ce qu'ils ouvrent les portes et qu'ils nous laissent sortir parce qu'on était vraiment au bord du malaise.
Oh, on a passé plus de temps à l'extérieur du train qu'à l'intérieur quoi, pour arriver. 7 heures assis sur les cailloux, vous savez les cailloux qu'on voit sur les bords des rails. On était assis dessus. Là, ça va, on a survécu, on est content d'être arrivé, vous voyez.
Alors Géraldine vient de le dire, on a battu plus de 350 records de chaleur hier pour un mois de mai. C'était à Osgore qui faisait le plus chaud avec un peu plus de 37 degrés. Et donc cette journée a encore été endeuillée, émaillée par des noyades, deux dans le Finistère et encore une en Seine-et-Marne. C'est un adolescent de 17 ans qui est décédé hier donc en se baignant avec d'autres jeunes, hein, Célestin Bougère.
Oui, c'est au niveau de l'ancien siège de Nestlé France que les jeunes ont plongé en début d'après-midi à Noisiel, situé à 36 km à l'est de Paris. D'après le service départemental d'incendie et de secours, le garçon a été vu par ses amis en train de couler près d'un barrage à une vingtaine de mètres de la berge. Les adolescents ont alors donné l'alerte. Une trentaine de pompiers sont intervenus, dont 5 équipes de plongeurs. En vain, tiré en dehors de l'eau, ce jeune de 17 ans n'a pu être réanimé. Il a été déclaré décédé vers 18h30. Le maire de Noisiel, dans un communiqué, a une pensée pour les parents et les proches de l'adolescent. Il assure qu'un arrêté d'interdiction de baignade dans la Marne avait été pris. Il appelle à la vigilance de tous pour éviter ce type de drame.
Alors, autre dame en marge de cette vague de chaleur, une femme de 28 ans est décédée, ça c'était dimanche, victime d'un coup de chaud en participant à une compétition d'aérox à Lyon. L'aérox étant ce mélange d'épreuves physiques et de musculation.
Et ce matin, c'est la reprise du travail ou de l'école.
Oui, retourner au boulot après un week-end de 3 jours, bien souvent. Alors, c'est jamais amusant de retourner au travail, mais ça l'est encore moins à plus de 30 degrés ici en Vendée avec Marion Gauthier.
7h-18h sous 40 degrés, mais plus de pauses autorisées aujourd'hui, souligne Frédéric.
Ça nous saisit, on n'est pas eu le temps de s'habituer. Quoi.
Ce quinquagénaire récolte les déchets industriels et les transporte dans son entreprise de recyclage dans le Maine-et-Loire.
Les jambes qui deviennent de plus en plus lourdes, le casque chez nous est obligatoire, le casque muni d'une jugulaire en plus, donc ça... Sensation d'étouffement, c'est de plus en plus compliqué à gérer.
Dans le traitement de déchets, comme dans la restauration, les consignes sont les mêmes, s'hydrater, ventiler au maximum. Dans le bâtiment, certaines entreprises vont commencer plus tôt, mais en Vendée, où il y a tranché.
Je vais tout décaler à jeudi, pour voir si les températures sont pas trop élevées non plus jeudi. Au mois de mai, ça m'est déjà arrivé décaler un chantier par rapport à la pluie, mais jamais de décaler par rapport à une température aussi énorme.
Des chantiers au ralenti.
Excusez-moi, parce que j'ai chaud là aussi.
Souffle Virginie Chevalier de la CAPEB Ille-et-Vilaine.
À craindre des retards, une baisse du chiffre. Ce sont des périodes où le bâtiment fonctionne bien, les périodes de printemps et d'été. On va avoir encore une semaine catastrophique.
L'inquiétude pour elle, c'est que ces pics de chaleur se répètent.
On vous attend ce matin au 32-16 avec parfois ce sentiment qu'on répète un peu les choses d'une année sur l'autre, d'une saison sur l'autre. La clim dans les écoles, par exemple. Vous allez voir, hein, dans le débat, là, mercredi, jeudi, vendredi, on va commencer à avoir ce débat. L'organisation du travail, ça, c'est vous qui nous l'a raconté. Je pense aux couvreurs en particulier, ceux qui bossent sur les toits. Je pense aux boulangers qui nous écoutent nombreux le matin tôt derrière le four, là. On vous attend au 32-16, à tout de suite.
Deux adolescents de 15 et 16 ans sont en garde à vue depuis hier à Rennes dans l'enquête sur la mort d'un garçon de 11 ans qui était retrouvé mort avec une serviette de bain mouillée, souvenez-vous, fortement serrée cette serviette autour de son cou. C'était donc dimanche après-midi sur les bords de la Vilaine, Amélie Courtet.
Toute la journée hier, des pompiers plongeurs ont fouillé le fleuve, la Vilaine, à la recherche du moindre indice. Tenu à l'écart par des rubalises du lieu où l'enfant a été retrouvé, les habitants, sous le choc, peinent à trouver les mots.
Je trouve ça terrible comme info, quoi. Je veux dire, c'est un quartier qui est quand même paisible.
Deux adolescents ont été placés en garde à vue pour meurtre. Une jeune fille de 15 ans qui s'est présentée d'elle-même au commissariat de Rennes et un jeune homme de 16 ans arrêté plus tôt dans la matinée à son domicile. Tous deux ont été vus en compagnie du garçon de 11 ans décédé, selon le procureur de Rennes. Un témoin affirme qu'ils pêchaient ensemble dimanche après-midi.
Je vous signale cette nouvelle baisse des prix du pétrole. Encore cette nuit, un recul de 5% cette nuit sur les marchés asiatiques. Baisse malgré pourtant l'annonce des frappes par l'armée américaine dans le sud de l'Iran.
Il est 5h05 sur RMC et une page s'est tournée hier soir à Roland-Garros.
Oui, avec la défaite de Gaël Monfils, battu en 5-7 par un autre Français, Hugo Gaston, pour son tout dernier Roland-Garros à 39 ans. Émotion forcément que nous raconte Léna Marjac.
Une dernière bataille porte d'Auteuil de presque 3h30. Mené 2-7-0, puis revenu au score avant de s'écrouler dans la cinquième manche. Gaël Monfils a tout donné.
Bonsoir tout le monde. On y est. Merci, je vous aime tellement.
Voilà, Monfils et Roland Garros, c'est fini après une 19e et dernière participation.
C'est sûr que je reviendrai vous redire encore merci. Roland Garros, je vous dois tout et je vous dis à un de ces jours et merci pour tout ce que vous m'avez donné. Merci beaucoup Roland Garros.
Lui aussi a donné beaucoup de choses, déjà de la bonne humeur, toujours ce grand sourire et des coups de légende aussi, un vrai showman pour le public.
Merci pour tous ces moments que tu nous as fait vivre, pour toutes ces images que tu nous laisses.
Merci d'avoir cassé les codes du tennis à l'époque où il arrivait, il n'y avait pas autant de show. Il a donné une autre dimension à ce sport.
Sixième joueur mondial au meilleur de sa carrière, une demi-finale à Roland-Garros en 2008. Gaël Monfils a marqué son sport et hier soir, son adversaire Hugo Gaston s'en est presque voulu de l'avoir battu.
Je l'ai juste félicité, remercié et presque aussi excusé de l'avoir battu, quoi.
C'était la fin à Roland-Garros, certes, mais pas la fin de sa carrière. Gaël Monfils espère ranger officiellement sa raquette à Paris La Défense Arena en novembre prochain.
Alors, le bilan de la journée d'hier à Roland-Garros est meilleur que celui de la veille. 4 Français qualifiés sur les 9 engagés. Il faut dire qu'il y avait 2 confrontations franco-françaises. Ils sont encore 9 aujourd'hui, avec notamment Loïs Boisson, demi-finaliste surprise la saison dernière. Il y a la finale de Ligue des Champions qui approche en football pour le Paris Saint-Germain. Vous savez que c'est samedi à Budapest contre Arsenal. Tiens, vous avez des nouvelles des Parisiens, Arthur Perrault.
Oui, au PSG, l'entraînement reprend aujourd'hui et il sera scruté de très près. 2 incertitudes demeurent. D'abord, celle d'Achraf Hakimi, le défenseur, tente de se remettre d'une lésion à la cuisse. Depuis cette blessure, l'international marocain s'entraîne intensivement à part du groupe. Autre interrogation, Ousmane Dembélé, touché au mollet lors du dernier match de la saison. L'attaquant enchaîne les soins. Il n'a pas encore repris l'entraînement collectif. Mais dans une interview accordée la semaine dernière à RMC Sport, le joueur s'est montré affirmatif. Oui, je serai prêt à 100%. À l'approche de la finale, l'entraîneur Luis Enrique cherche à maintenir son groupe au meilleur niveau avant le départ pour Budapest vendredi matin.
Est-ce que Nice va rester en Ligue 1 la saison prochaine? Il y aura le premier match du barrage Ligue 1-Ligue 2 face à Saint-Etienne. Ce sera ce soir à 20h45 et vous vivrez ça évidemment sur RMC, premier match à Saint-Etienne.
Et d'ailleurs, supporter niçois ou stéphanois, là vous prenez la parole ce matin, c'est la saison qui se joue sur un match, quoi.
Bien sûr, sur 2 matchs en l'occurrence,
oui,
c'est en aller-retour.
Une rotation.
Et puis l'info de la soirée, je voulais pas être médisant.
Non, pas de problème.
L'info de la soirée, c'est le nageur Léon Marchand qui va s'entraîner en France cet été à l'INSEP à Paris avant les championnats de France qui sont prévus fin juin, puis au Cercle des nageurs de Marseille avant les championnats d'Europe du mois d'août.
Merci beaucoup Quentin Vinet. C'était le journal. Il est 5h08 sur RMC. On a tous un peu chaud.
Oui. Et d'ailleurs, on va accueillir Pierre-Yves au 32-16. Pierre-Yves qui a répondu à l'appel de Mathieu. Pierre-Yves, bonjour, vous êtes boulanger.
Ouais, bonjour tout le monde, je suis boulanger, oui.
Comment ça va ce matin?
Oui, ça va bien, moi. Alors, on n'est pas derrière notre four, hein, comme vous l'avez dit, on est bien devant le four. en principe.
Ouais, ouais.
Ah oui, c'est vrai ça. Décidément, Mathieu.
Tout le temps.
Bon, je pense que c'est la chaleur.
Non, bien vu, Pierre-Yves, c'est juste. C'est juste.
Voilà. Non, on est devant le four, il fait chaud, mais bon, aujourd'hui, les fours sont bien isolés par rapport à il y a 50 ans en arrière, donc c'est bien. Et puis, alors bon, moi, perso, j'ai la chance d'être tout climatisé, donc.
Ah oui, mais, non, mais c'est sûr. Ah oui, c'est votre solution pour lutter contre la chaleur, la clim. Bah, on va tout finir, de toute façon.
J'ai tout climatisé, le labo, le fournil, c'est tout climatisé, la maison, c'est pareil. Comme ça, je peux bien dormir et m'opposer dans la journée, et voilà, quoi.
Ah, mais Pierre-Yves, attendez, c'est vous qui avez envoyé sur le WhatsApp une photo de piscine, là.
Non, oui, mais ça, je voulais pas trop en parler, mais bon.
Non, mais parce qu'il y a la boulangerie, ça, c'est le boulot. Non, c'est la voilà, raison de votre appel, et puis il y a le privé.
On pique une petite tête, et puis voilà, quoi.
Mais non, il faut. Attendez, on va pas se laisser abattre.
C'est pour ça que je me lève. C'est pour ça que je me lève tous les jours à minuit et demi. Hein. C'est pour pouvoir me payer le luxe d'avoir ça, quoi.
Bah, vous savez, on est tous en horaire décalé ici. On appréciera tous la journée. Après, quand on doit dormir la journée en ce moment, c'est peut-être un peu plus difficile que le reste de l'année. Bah, tiens, vous témoignez. Comment est-ce que vous adaptez peut-être vos horaires, peut-être votre charge de travail, peut-être tout simplement les missions que vous accomplissez. Pierre-Yves, merci de votre appel depuis l'Ardèche.
Pierre-Yves, il veut dire que les Verts ce soir, bah, alors, je suis supporter de l'Olympique lyonnais, hein. Donc les Verts, ça serait bien qu'ils fassent quelque chose.
Vous êtes niçois ce soir.
Bah, il faut vite que tu reviennes en première division, les Stéphanois.
Ah, ok, non, vous voulez les confrontations. Bah oui.
C'est trop beau.
Ben oui.
Non, qu'ils reviennent vite. Alors j'aime bien Nice, attention, hein, mais bon, il va falloir faire un choix. Je préfère prendre de la Saint-Etienne, quoi.
Et le match retour, Quentin.
Match aller ce soir, match retour vendredi.
Merci. Comme ça, on est complet. Pierre-Yves, merci beaucoup. Depuis l'Ardèche, au 32-16 ce matin.
Il est 5h10 et dans un instant, c'est l'heure de la solution conso avec Géraldine.
Alors, non seulement je vous fais baisser la facture d'électricité ce matin, mais en plus, je vous explique comment vous pouvez gagner de l'argent en consommant de l'électricité.
Ah, c'est pas mal.
Pas mal. Ouais.
Allez, je prends. Et puis avant ça, il y aura le choix de la rédaction. L'intelligence artificielle qui pourrait bientôt booster les caméras de vidéosurveillance. Une disposition du projet de loi Riposte du ministre de l'Intérieur. Comment? Pour quels événements? Et pourquoi est-ce que ça fait débat? On vous dit tout dans un instant sur RMC et RMC Story.
Jusqu'à 7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 5h12 sur RMC et RMC Story.
RMC, le choix de la rédaction.
Déjà tous filmés, mais serons-nous bientôt tous fliqués? Bonjour Maxime Clierusa.
Bonjour à tous.
Vous êtes le journaliste police-justice d'RMC. C'est une des dispositions du projet de loi Riposte du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes. L'expérimentation de l'intelligence artificielle dans les caméras de vidéosurveillance.
Le vote solennel a lieu aujourd'hui au Sénat. Maxime, une expérimentation a déjà eu lieu. C'était en 2024, on s'en souvient, pour les Jeux Olympiques de Paris. Le gouvernement souhaite la reconduire et même s'appuyer sur les progrès réalisés dans l'intelligence artificielle pour qu'elle soit encore plus efficace.
Oui, rappelez-vous, à l'époque, le gouvernement voulait éviter tout mouvement de foule et risque d'attentat autour des sites olympiques. Rebelote cette fois-ci, à une différence près, cette vidéosurveillance algorithmique concernera les grands événements de type concert, match, mais aussi les lieux ouverts au public comme les centres commerciaux ou encore les transports en commun, comme nous l'explique le commandant Vincent, responsable du centre de coordination opérationnelle de sécurité à la préfecture de police de Paris.
Alors au quotidien, on pourrait anticiper une remontée d'alerte. Je prendrai comme exemple une personne qui menace sur les quais d'une station, d'une gare, qui menace avec un couteau d'autres voyageurs. Cette agression, déjà, on aurait une arme exhibée, elle aurait pu être détectée par l'intelligence artificielle. Une arme exhibée sur un quai, ça va générer généralement un mouvement de foule, lequel aurait pu être aussi détecté par l'intelligence artificielle. Le mouvement de foule peut générer des chutes sur les quais, sur les voies, ça pourrait être aussi détecté par l'intelligence artificielle. Et tout ça avant que l'alerte ne soit remontée par un appel classique 17 ou 112.
Mais concrètement, Maxime, cette technologie, elle est amenée à remplacer les policiers ?
Les autorités assurent que non. L'objectif, c'est surtout que chaque caméra puisse être utile. Je vous donne l'exemple de Paris. Entre les caméras de la capitale, des villes périphériques et celles des transports en commun, ce sont 30 000 appareils qu'il faudrait surveiller. Un défi humainement impossible, nous explique Anne-Florence Canton, l'ex-directrice de l'innovation et des technologies à la préfecture de police. C'est elle qui a supervisé cette expérimentation pendant les Jeux. Et selon elle, lorsque l'IA détecte une situation suspecte, elle sert simplement à donner l'alerte aux policiers derrière l'écran.
Ça va tout de suite générer une alerte qui va s'afficher automatiquement sur l'écran de l'opérateur vidéo qui aura été formé à l'IA. Et donc comme ça, l'opérateur sait que l'algorithme lui dit il se passe quelque chose sur cette caméra, donc il va prendre la main sur cette caméra et il va traiter l'événement, donc c'est-à-dire qu'il va lever le doute aussi bien l'algorithme peut avoir détecté quelque chose, alors il peut s'être trompé, ça arrive, ou bien le quelque chose détecté peut être normal dans le contexte. Donc ça, c'est l'opérateur qui prend la main et qui décide si y a quelque chose d'anormal ou pas.
Bon, alors, c'est sûr qu'expliqué comme ça, on a un peu l'impression qu'il n'y a que des avantages à utiliser cette technologie. Cela dit, il y a débat et il y a plusieurs associations qui s'inquiètent de futures dérives.
Oui, mais le gouvernement se veut rassurant. Il n'y aura pas de rapprochement automatique avec des fichiers, personnes recherchées ou auteurs d'infractions, ni reconnaissance faciale. Des promesses que balaie Noémie Levin, juriste pour l'association La Quadrature du Net.
La vidéosurveillance algorithmique, c'est la reconnaissance de comportement. De comportement, de silhouette, selon une norme qui aura été définie par l'État. Donc si vous, parce que vous faites trois fois le tour du pâté de maison, ça a été défini comme suspect par la vidéosurveillance algorithmique, ça va générer une alerte. Et on voit bien ici qu'on parle de normes sociales, de contrôle social même. En fait, avec cette technologie qui va générer une alerte quand l'État aura décidé que quelqu'un est bizarre ou ne l'est pas. Et si les critères, c'est avoir un jogging, avoir un gilet jaune, avoir une certaine démarche, etc., c'est possible. Donc, on voit bien que cet outil peut potentiellement discriminer certaines personnes, certains comportements.
Car ce n'est pas le projet de loi Riposte qui inquiète l'association, mais plutôt les velléités de certains politiques aller plus loin, selon la juriste.
Il y a vraiment une stratégie des petits pas. Donc d'abord, on expérimente pour un certain usage, ce qui a été le cas avec les Jeux de 2024. La loi Riposte veut étendre les usages et les bâtiments et les lieux. Et ensuite, on sait qu'ils veulent faire une expérimentation de reconnaissance faciale. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, et l'ancien ministre de l'Intérieur, Retailleau, l'avaient dit, vous voulez faire un groupe de travail. Donc en fait, il y a cette stratégie. Et en minimisant chaque loi, en fait, à la fin, c'est un édifice global de surveillance qui se crée. Et donc, c'est pour ça que nous, les garanties du gouvernement, on les balaye, puisque on connaît, on suit le projet politique et l'agenda de long terme.
Cette fois, l'expérimentation est prévue pour durer jusqu'à la fin 2030 et ainsi être opérationnelle pour les Jeux Olympiques d'hiver dans les Alpes françaises.
Bon, vous en pensez quoi ? Dites-le nous au 32-16, sincèrement. Est-ce que ça vous rassure de savoir qu'on met de la technologie, qu'on met de l'innovation comme ça dans la surveillance ? Évidemment qu'on n'a pas envie de connaître une situation de type attentat ou une situation dangereuse dans un mouvement de foule, dans un rassemblement, etc. Et en même temps, vous avez entendu la juriste interrogée par Maxime Clieruza, qui va programmer cette intelligence artificielle et sur quels critères ? Est-ce que ça vous inquiète aussi ? Vous prenez la parole ce matin au 32-16, n'hésitez pas.
Et alors justement, à 5h17, on va accueillir Aurélien au 32-16 qui nous appelle, non pas sur cette question, mais sur la question de la chaleur. Bonjour Aurélien.
Bonjour à tous.
Aurélien, vous êtes routier, vous êtes sur route là ce matin ?
Bah, je suis pas parti encore, mais okay. dans 5 minutes, je décolle.
Ah bah voilà, vous raccrochez avec RMC et vous prenez la route. Exactement. Avec la clim ou sans clim ?
Avec la clim.
Ah bah là.
Avec la clim, je viens d'allumer le frigo pour mettre mes petites affaires, ma petite bouteille d'eau, et on sera pas mal.
Et alors, vous parliez-vous de la classe de vos enfants ?
Ouais, elle est climatisée. Ouais. Toute l'école, nous, est climatisée à ce tout petit village. J'avais appelé déjà pour le dermato de 2 ans l'autre jour.
Mm-hmm.
Et du coup, dans mon petit village, ben il y a la clim dans toutes les classes parce que le maire fait en sorte que les gamins soient bien. Donc il fait une super école, il fait tout bien pour les enfants. Donc ils ont la clim.
De toute façon, on n'y coupera pas. Hein. La question, c'est climatiser des endroits qui sont aussi mal isolés que bien des écoles. Ça peut être un sujet. Aujourd'hui, il y a quand même eu beaucoup de progrès. On l'expliquait notamment hier sur la climatisation. Vous, Aurélien, ça vous rassure ?
Bah oui, parce qu'on voit, nous, quand ça fait vraiment chaud, même les récrés, bah du coup, ils les passent un peu dans la classe parce que, bah, comme dans toutes les écoles, ils ont viré tous les arbres. Donc forcément, l'ombre, c'est...
Ouais.
C'est un peu, bah oui, l'arbre est trop dangereux, donc du coup, il y a plus d'arbres, il y a plus d'herbe, donc bah, il reste un peu dans la classe. Mais bon, quand il fait 35 dehors, ils sont presque mieux dedans, quoi.
Ouais. Merci Aurélien.
De rien.
Un appel du Puy-de-Dôme. On est chez vous, Géraldine Demory et Aurélien qui nous parlait de la clim avec 18 degrés ce matin-là. Au moment où on se parle déjà à Clermont pour Aurélien, c'est ce qu'il a précisé au Standard. Il est 5h19.
Et c'est l'heure des choix de la bande avec des infos qu'on a dénichées dans la presse. Bonjour Arthur Asquin.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu, bonjour Géraldine.
Je vous propose de continuer de parler intelligence artificielle parce qu'il n'y a pas qu'en France et dans nos systèmes de vidéosurveillance qu'elle inquiète. Elle inquiète jusqu'au Vatican à tel point que le pape Léon XIV a reçu un magna de l'IA, le patron d'Anthropic qui a créé notamment le logiciel Claude. Et alors le pape a même publié sa toute première encyclique sur le sujet Magnifica Humanitas, un texte dans lequel le souverain pontife appelle, je cite, à désarmer l'intelligence artificielle. Il rappelle aussi qu'elle ne peut pas être considérée comme moralement neutre. Finalement, est-ce que le pape n'aurait pas peur que ses fidèles se détournent de Dieu ou prennent l'IA pour un dieu ?
Ouais, après, oui, prendre l'IA pour un dieu, ce serait L'alerte du pape, quoi. Il faut désarmer l'IA. C'est ce qu'il dit. C'est fort quand même, non?
C'est fort, ouais.
Je sais pas. On est en plein dans ce débat-là. On va aussi parler des côtés positifs ce matin, avec notamment cette application qui aide nos gamins à réviser. L'application d'IA qui les aide, mais qui leur donne pas les réponses. Vous l'entendrez juste avant 6h. Arthur?
Oui, moi je vous emmène dans les Côtes d'Armor ce matin, à Saint-Jacques-de-la-Mer. Alors pour l'anecdote, j'y étais ce week-end, c'est splendide.
Enquête, pardon.
Bien sûr,
ouais, enquête, c'est reportage.
Je vais me dire, ça aurait pu être moi, vous allez voir. Au large de cette presqu'île, il y a l'archipel des Hébiens, des îlots inaccessibles à pied, à marée basse. Et le concept des marées, va falloir l'expliquer à ces 55 retraités parisiens. Hier, ils ont rejoint l'archipel et après, ça a traîné et la mer, les a pas attendus.
Ah, mais il y a pas de marée à Paris.
Oui, non, c'est sûr. Ils se sont retrouvés piégés sur un des îlots. Une opération d'évacuation a été lancée par les sauveteurs, de la SNSM et les pompiers. Tout le groupe a pu rejoindre le continent, parce qu'il y a rien sur ces îlots. Donc quand on arrive à cours d'eau, etc., sous le soleil, ça peut.
Ah oui, d'accord. C'est vraiment un petit bout de caillou dans la mer.
Oh, ils sont tous sains et saufs.
Parce que j'aurais dit, on peut attendre que la marée redescende, sinon.
Bien sûr. Ouais, on peut attendre.
Il fait chaud et c'était des retraités.
Il y en a aussi un qui a essayé de traverser en voiture il y a quelques semaines. Voilà, donc il n'y a pas que des génies à Saint-Jacques.
Mais vous, tout va bien?
Ouais, moi tout va bien.
La preuve, il est là.
Moi, j'ai fait la balade. On est parti avec la marée descendante. On est remonté avant que ça remonte. Voilà.
Belle anecdote. Merci, Arthur Asquin. Moi, je vous donne rien à voir. Mais les premiers bilans des voies de covoiturage sur le périph parisien, c'est dans le Parisien justement ce matin, sur certaines portions du boulevard qui encercle Paris et à certains horaires, vous le savez peut-être, la voie de gauche est réservée aux véhicules qui transportent au moins deux personnes, aux taxis, transports en commun, VTC avec passagers. On a forcé un peu l'habitude parce qu'on apprend même qu'en un an, près de 100 000 amendes ont été dressées pour non-respect de la règle. C'est 135,90 € si vous payez rapidement. Mais les chiffres montrent surtout une évolution parce qu'il y avait beaucoup d'amendes au début et beaucoup moins après. Donc on s'y est vraiment habitué. La ville de Paris qui affirme aussi que la circulation est plus fluide avec une hausse de l'allure sur la voie réservée et une baisse de la pollution autour du périph.
Plus fluide, j'en doute un peu.
Ah non, moi je constate.
Ah d'accord.
Ouais. Enfin, de mon côté, après, il y a plein de portions différentes,
on prend pas le même côté.
C'est sûr qu'à 2h du matin, c'est fluide.
Non, mais retour. Il y a un moment, j'habite pas ici toute la journée.
Ah ouais?
À un moment, je rentre chez moi, je vais voir des gens dans la capitale, quoi. Il est 5h22 sur RMC et RMC Story. Les grands titres de l'actualité.
Et 8 départements de l'Ouest qui basculent en vigilance orange canicule cet après-midi, du jamais vu aussitôt dans l'année. Hier, ce sont des centaines de records de chaleur qui ont été battus ou égalés, plus de 350 au total. Le Premier ministre Sébastien Lecornu tiendra une réunion interministérielle jeudi. Deux mineurs de 15 et 16 ans placés en garde à vue après la découverte macabre du corps sans vie d'un jeune de 11 ans sur les rives de la Vilaine à Rennes avec une serviette nouée autour du cou. Et puis à Roland-Garros, 4 Français qualifiés, mais clap de fin pour Gaël Monfils qui a perdu face à son compatriote Hugo Gaston, qui est donc au revoir à la terre battue de la porte d'Auteuil dès le premier tour. Encore 9 Français en lice aujourd'hui.
Il est 5h23.
RMC, la solution conso.
Et tous les matins, les astuces conso de Géraldine de Maury. Tendez l'oreille. Sur notre facture d'électricité, on va faire des économies aujourd'hui. Enfin, vous nous dites même, Géraldine, qu'on peut être payé pour consommer de l'électricité?
Oui, et c'est grâce à un phénomène qui est de plus en plus fréquent en ce moment. C'est l'électricité qui est vendue sur les marchés à un prix négatif. C'est ce qui se passe quand il y a plus de production d'électricité que de demande. Typiquement, en ce moment, l'après-midi, on a beaucoup de production d'énergie solaire. Sauf que c'est pas le moment où on consomme le plus. Résultat, on se retrouve avec une électricité dont personne ne veut, qu'on ne peut pas stocker. Donc, finalement, elle est gaspillée. Et c'est le producteur d'énergie qui paye pour injecter son électricité dans le réseau. Imaginez, vous allez acheter un paquet de bonbons et on vous dit, personne n'en veut, donc prenez-le et en plus je vous donne 1 €. C'est le même principe.
Ok, on fait comme ça.
C'est super. On en profite du coup.
Alors il y a certains fournisseurs qui sont en train de prendre en compte ces prix négatifs et qui comptent bien nous en faire profiter. C'est le cas d'Octopus Energy qui vient de lancer ses éco-sessions. Le principe, entre mai et septembre, vous allez avoir une dizaine de créneaux qui va être bloqués, généralement entre 12h et 16h. La veille, vous recevez une alerte et tout ce que vous allez consommer pendant ces sessions sera intégralement remboursé. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de surconsommer, ça va être juste de décaler sa consommation au bon moment. Par exemple, ce sera le bon moment pour recharger sa voiture électrique, pour lancer le lave-linge ou encore passer en mode batch cooking, vous savez, quand il faut préparer tous les repas de la semaine.
Bon, ça me fait penser au forfait Tempo de DF, sauf que lui, il paye pas.
Voilà,
lui, il ne nous offre pas d'argent.
ça va pas jusque-là.
Il y a d'autres offres que celle d'Octopus ?
Oui, il y a aussi Sobri qui a lancé une offre de fourniture d'électricité. Alors là, directement indexée sur les cours. Donc concrètement, les prix sur les marchés montent, vous allez payer plus cher. Les prix redescendent, bah, vous allez être directement impacté. Ça se répercute tout de suite. Et lorsqu'on arrive à des prix négatifs, eh bien, vous êtes littéralement payé pour consommer de l'électricité. C'est comme ça qu'un propriétaire d'une voiture électrique a pu recharger gratuitement sa voiture et en plus empocher 30 euros. Donc, alors attention hein, quand même, puisque si vous gérez mal et que vous consommez lorsque l'électricité est au plus haut, eh bien, ça peut finir par vous coûter très très cher.
La solution qu'on soit retrouvée absolument quand vous le souhaitez en podcast via l'application RMC. Il est 5h25.
La conso sur RMC avec Banque Populaire. Engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
C'est l'un des visages historiques de YouTube, Seb Lafrit, créateur de contenu, rappeur aussi, c'est lui que l'on entend. Il a sorti un album l'année dernière, mais ce dont on va parler ce matin, c'est de son documentaire 30, sorti dimanche sur sa chaîne YouTube, après avoir été diffusé au Festival de Cannes et au cinéma pendant 2 jours.
Je me laisse aller, je suis un peu ailleurs. Je suis un peu d'ail, il est déjà tard, faudrait que j'entame ma journée d'ailleurs.
Alors le temps, c'est tout l'objet de ce film. Il a été réalisé à l'aube de ses 30 ans, film qui s'ouvre d'ailleurs sur une vidéo de lui tournée en 2017 et dans laquelle il s'adresse à son futur lui, âgé de 30 ans.
Les amis, j'ai retrouvé une vidéo de moi qui s'adresse au Seb qui aura 30 ans.
J'espère que tu te seras stabilisé dans tes choix.
Alors stabilisé, je sais pas, mais le youtubeur s'est offert un voyage introspectif à Tahiti.
Ouais,
pas mal.
Voilà.
Bah, au moins financièrement, il a l'air stabilisé. Et les images sont évidemment magnifiques. Elles se mêlent à des tas d'archives familiales grâce au caméscope de ses parents, parents auxquels il rend hommage tout en racontant sa difficulté à devenir adulte.
J'avais pas prévu de faire la même chose. J'avais pas prévu de faire la fête. Y a quoi qui paraît ça? Seb Lafrit sur RMC et RMC Story, le canal 23, ce matin dans le Morning RMC. Il est 5h26, on va écouter le meilleur d'Arnaud Demange, mais d'abord je vous rappelle qu'on joue. Ce matin, on joue au mot caché à tout moment. On a prononcé, on l'a fait hein, plusieurs fois, et on va le reprononcer,
Dès
un
le
mot qui sort de l'ordinaire. Si vous l'entendez, vous envoyez mot par SMS au 732-16.
Et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner votre montre Kelton, la marque icône pop de l'horlogerie française qui fête ses 70 ans. Vous envoyez mot au 732-16.
Jouez au mot caché sur RMC avec Kelton, la marque icône pop de l'horlogerie française. Faites-vous plaisir sur kelton.fr.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Allez, on revient tout à l'heure en direct dans Apolline Matin, mais on se met tout de suite dans l'ambiance avec le meilleur d'Arnaud Demange. Comme vous étiez tous en terrasse à glandouiller ce week-end, vous avez peut-être loupé une info incroyable. L'Elysée a été perquisitionné. Vous avez vu ça? Il y a une perquisition à l'Elysée, quoi. Alors, c'est dans le cadre d'une information judiciaire sur l'organisation des cérémonies d'hommage au Panthéon. Et c'est la société Shortcut Events qui chope le contrat à chaque fois. Alors, les juges veulent savoir pourquoi. Bon, alors, c'est pas pour les défendre, Shortcut Events. C'est juste, il ne doit pas y avoir non plus 250 boîtes spécialisées dans les panthéonisations. Quoi. D'ailleurs, c'est rarement un truc qu'on fait nous, c'est assez niche. Moi, nos enterrements à nous, ils sont plus modestes. Hein, faut dire. J'en ai parlé à ma femme, je demandais pour le mien. Elle m'a dit non, c'est pas du tout prévu de te faire défiler ton cercueil dans les rues de Versailles. Parce que moi, je voulais une brigade de cheval de chaque côté, c'est avec des petites filles qui apportent des médailles sur des coussins, et des Sylvie et des Nathalie qui pleurent. Tout mon public de spectacle en larmes, comme en Corée du Nord. Et un discours de Jack Lang, il était charmant. Et puis, il a grandi. Alors, ça coûte 2 millions de panthéoniser quelqu'un. Alors que franchement, moi, vous me l'auriez filé, la dépouille de Badinter, une estafette, 3 potes, une pelle, on s'en tirait pour 50 balles. Ah ouais. Et encore, parce que l'essence est chère. Arnaud Demange, qu'on retrouve à 7h20 et 8h20 en direct dans Apolline Matin sur RMC et RMC Story.
5-7, le Morning RMC.
Et à 5h30, c'est l'heure de retrouver Thibaut Texier pour le journal. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise, bonjour à tous.
Une vague de chaleur inédite pour un mois de mai.
Avec plus de 350 records de chaleur battus hier en France. Et la journée d'aujourd'hui devrait être encore pire. Cela n'est pas sans conséquence pour l'organisme avec une hausse des appels au SAMU de Bretagne. C'est une information que vous révèle RMC. Puis Bruno Genesio qui quitte Lille, pressenti du côté de l'OM.
Ce mois de mai 2026 restera définitivement dans les annales.
Nous n'avions jamais eu aussi chaud avec un indicateur thermique de 24,3 degrés. C'est 7 degrés de plus que la normale, des records battus partout en France. 36,5 degrés au Cap Ferret, 35 à Royan, 33 à Brest, au Mans et à Nevers. Une vague de chaleur inédite, précoce, qui va se prolonger et se renforcer aujourd'hui avec de nombreux records attendus encore une fois et redoutés par les plus jeunes qui vont reprendre l'école sous une chaleur de plomb dans des locaux parfois vétustes n'était pas forcément adapté à de telles températures. Reportage à Nantes, Rachel Sadoudine.
Au fond d'une cour où l'on peine à trouver de l'ombre, un bâtiment à la façade quasi entièrement vitrée que nous ouvre cette enseignante préférant rester anonyme.
On arrive dans la salle qui est à l'étage, vraiment la salle où les élèves ont du mal à supporter la chaleur ainsi que leur enseignante.
Exposition plein sud, pas de volets extérieurs, aux fenêtres seulement des rideaux très fins. Résultat,
il n'y a pas d'air qui circule parce qu'elles ne peuvent pas faire vraiment de courant d'air, sachant que les fenêtres sont en oscillo-battant.
Si on va voir sur le thermomètre, il fait combien ?
J'imagine qu'il fait une trentaine de degrés et ça sans élèves. Oui, 30.
Les enseignants réclament depuis plusieurs années des pare-soleils aux fenêtres, mais n'ont obtenu qu'un petit ventilateur. Alors les parents, eux aussi, font ce qu'ils peuvent. Clément a quelques astuces pour rafraîchir sa fille de 10 ans, Juliette.
Des brumisateurs à emporter dans le cartable le matin, des bouteilles d'eau fraîche. On les envoie parce qu'on ne va pas non plus leur faire rater l'école, mais c'est vrai qu'on n'est pas très serein. Ils sont dans des classes de 28, c'est inquiétant quoi, de laisser des enfants avec une telle chaleur toute la journée.
La chaleur touche aussi les collèges et lycées. D'après le SNES, syndicat du secondaire, 90% des établissements de Loire-Atlantique ne sont pas adaptés à ces épisodes de forte chaleur.
Et 8 départements sont donc en vigilance orange à la canicule, 20 sont en alerte jaune, du jamais vu si tôt dans l'année. Et c'est encore plus compliqué à vivre dans les régions où l'on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir aussi chaud. C'est le cas de la Bretagne, où les appels au SAMU ont grimpé de 15 à 30% par rapport à l'an dernier. C'est une information que vous avez à l'RMC. Solène Leroux.
Une forte hausse des sollicitations qui rappelle les périodes de fin d'année et les épidémies hivernales s'étonne presque Thomas Delomas du SAMU de la Manche.
Un afflux d'appels important qui est la conjoncture à la fois d'un week-end prolongé qui nous vaut une affluence importante de touristes.
Mais aussi une vague de chaleur précoce à laquelle ce département et tout l'ouest du pays n'est pas habitué.
Avec des sollicitations qui sont essentiellement liées à la chaleur, avec des personnes âgées fragiles qui sont malmenées.
Les organismes n'ont pas eu le temps de s'habituer, confirme Louis Soula du SAMU d'Ille-et-Vilaine. Il a dû adapter son dispositif.
Ça nous pose des petits problèmes d'organisation parce qu'il a fallu renforcer les équipes. La situation, elle est bien maîtrisée. Et bon, après, c'est dans la durée que ça risque d'être compliqué pour nous. Surtout s'il y avait un pic d'hospitalisation important.
Pour éviter de surcharger un système de santé en tension, tout le monde doit faire preuve de bon sens, insiste-t-il. Ses conseils, boire souvent, protéger les plus fragiles et au moindre doute, appeler le 15.
Et Sébastien Lecornu présidera une réunion interministérielle sur la canicule jeudi. Les autorités suivent de près la situation, multiplient les appels à la vigilance. C'est le cas notamment pour les sportifs. Après le décès d'un coureur dimanche à Paris, on a appris la mort d'une femme à Lyon dans une compétition sportive. Des noyades aussi après un week-end particulièrement meurtrier. On a appris la mort de deux personnes sur les plages bretonnes et d'un jeune adolescent de 17 ans qui se baignait dans la Marne.
Alors vous nous dites ce matin quelle température s'affiche sur le tableau de bord, hein, tout simplement à 5h33 du matin. Et puis comment vous vous adaptez, on va parler du sport aussi, hein. Vous avez peut-être des routines sportives, vous courez, vous faites du vélo, autre chose, je ne sais pas, des sports collectifs. Est-ce que vous vous adaptez, est-ce que vous avez levé le pied? La ministre des Sports sera notre invitée ce matin, on vous attend au 32-16. Et c'est sous cette touffeur que des centaines de passagers de deux TGV se sont retrouvés bloqués au milieu des voies.
Immobilisé, sans climatisation, arrivé avec 7 heures de retard en raison d'un défaut d'alimentation électrique qui a causé de nombreux retards sur la ligne TGV Paris-Nice. Un dernier train doit arriver d'ici quelques minutes à Marseille. Il était censé arriver à minuit. Il est 5h34. Vous écoutez RMC. Deux adolescents de 15 et 16 ans toujours en garde à vue ce matin à Rennes, deux jours après la mort d'un jeune garçon de 11 ans. Il a été retrouvé dimanche sur les bords de la Vilaine, une serviette nouée autour de son cou.
En Seine-et-Marne, c'est un mineur de 17 ans qui a été mis en examen et écroué hier.
Il a reconnu en garde à vue être à l'origine des coups de couteau mortels portés à un adolescent du même âge. Ça s'est passé samedi dernier dans un camping, Pierre Bazin.
Oui, selon les enquêteurs, une amie de la victime aurait en effet refusé d'ajouter l'adolescent suspect sur le réseau social et cela aurait alors donné lieu à plusieurs appels téléphoniques tendus entre le mis en cause et la victime, tous deux âgés de 17 ans. Et c'est finalement dans un camping de Seine-et-Marne que les adolescents décident de se retrouver le soir même pour en découdre. Le suspect, armé d'un couteau et accompagné d'un complice, retrouve la victime et deux autres jeunes femmes. Très rapidement, les premiers coups pleuvent. Selon le procureur de la République, la victime reçoit plusieurs coups de poing avant d'être poignardée décédée au niveau du thorax. Interpellé et placé en garde à vue, l'adolescent suspect a reconnu avoir porté un coup de couteau dans un accès de colère, mais il nie avoir eu l'intention de tuer la victime. Le parquet précise enfin que le mineur, mis en cause, est déjà connu de la justice pour des faits de violence et de port d'armes.
Le retour des frappes américaines en Iran, des sites de lancement de missiles et des embarcations tentant de poser des mines ont été ciblés par les États-Unis. Pas de quoi menacer la signature d'un potentiel accord toujours possible dans les jours à venir, dit ce matin le secrétaire d'État américain Marco Rubio, évoquant la tenue de négociations ce mardi au Qatar.
5h36 sur RMC, les adieux de Gaël Monfils à Roland Garros.
Battu hier soir en 5-7 face à son compatriote Hugo Gaston, le Français dit adieu à la terre battue parisienne. À suivre aujourd'hui l'entrée en liste de Loïs Boisson, révélation de la précédente édition opposée à la Russe. Kalinskaya, 22e joueuse mondiale, ce sera à vivre sur RMC et sur la radio digitale 100% terre battue. Un mot de foot avec Bruno Genesio qui n'est plus à Lille. C'est terminé, la rumeur courait depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel et son nom, David Alias, circule déjà pour un autre banc de Ligue 1.
Oui, c'est ce qu'a annoncé le club hier soir via un communiqué sur son site internet et ses réseaux sociaux. Après deux saisons réussies à la tête des Dogs, 5e de Ligue 1 l'an passé et une élimination en 8e de finale de la Ligue Europa, le LOSC a fait encore mieux cette année en terminant 3e du championnat avec en prime une qualification directe en Ligue des Champions, compétition qu'il n'avait plus disputée depuis 3 saisons. Arrivé en 2024 dans le Nord, Bruno Genesio avait apporté confiance et stabilité à Lille, mais depuis quelques semaines la rumeur de ses envies d'ailleurs enflait. Il en avait fait part à son président Olivier Létang à plusieurs reprises en fin de saison. Mais pour l'instant, l'ancien entraîneur lyonnais garde le silence sur son avenir. Mais son nom circule déjà dans les couloirs d'un autre Olympique, Marseille, en pole position pour attirer le technicien français.
À retenir aussi Nice qui joue sa survie en Ligue 1 ce soir opposé à Saint-Etienne. Match aller des barrages sur la pelouse des Verts, 20h45 sur RMC. Et le PSG qui reprend l'entraînement ce matin à 14h de sa finale de Ligue des Champions face à Arsenal.
Et les courses, c'est à Vincennes.
Le rendez-vous à 18h25, le 8, l'Olistar, favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 14, Lira Poterie, le 8 et le 14.
Merci Thibaut. C'était le journal de 5h30 sur RMC et RMC Story. Et alors, y a des gens qui sont contents avec cette vague de chaleur accablante. Je pense à Vanessa en particulier dans le département du Maine-et-Loire. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Vanessa, vous êtes ouvrière viticole et vous commencez tôt. Hein, dans une vingtaine de minutes, vous allez commencer le boulot.
Oui. Bon. Bah, il faut.
Et vous allez finir vers 13-14 heures, donc vous bossez à la fraîche.
13h, 14h. Voilà.
Mais surtout, c'est. Cette vague de chaleur, c'est une bonne chose pour la vigne en ce moment, c'est ça?
Bah oui et non, quoi. C'est que ça va pousser d'un coup, donc ça va aller vite.
Ouais.
Donc il va falloir qu'on court après le travail, quoi.
Ah oui, vous, ça vous fait plus de boulot?
Ah bah oui.
Ah bah oui, parce que ça va exploser derrière. Quelques pluies, ça va pousser. C'est en fleur en ce moment?
Oui.
Ouais. Donc je crois que c'est un bon moment pour avoir de la chaleur et un peu de sécheresse.
Oui. Tant que les grains sont pas formés, ça va. La chaleur. Bon.
C'est après que c'est plus inquiétant.
Ouais, parce qu'après elle peut monter en stress hydrique et elle arrête de pousser. Voilà.
Bon, Vanessa, dans l'Ouest, il fait très chaud. Vous faites des pauses, vous vous hydratez, vous êtes organisée en fonction.
Ah oui. Là-dessus.
Mais vous n'avez pas changé vos horaires? Vous commencez pas une heure plus tôt ou...
Ah bah si, normalement on commence à 8h, mais bon là.
Ah oui. D'accord, donc vous commencez 2h plus tôt.
Ouais.
Ah oui. Okay.
Bah oui, mais comme ça, oui, quand c'est 15-16h, quand c'est vraiment au plus chaud, vous n'êtes plus dans les vignes. Merci Vanessa. Bon courage.
Merci de rien. Merci.
Bon courage, ouvrière viticole. Oui, évidemment, on est content quand on boit du vin avec modération, quand on le produit ou qu'on le vend. Quand il faut aller s'occuper des vignes, ça va faire beaucoup plus de boulot. Évidemment, Vanessa, merci beaucoup. Il est 5h39.
Et on va retrouver Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour tout le monde.
Qui est l'homme du jour?
C'est un réfugié politique azéri qui va faire face au tribunal de Rennes à ceux qui ont tenté de l'assassiner.
Et puis à 5h50, la saison des examens a commencé. Bac, brevet. Bonjour Nicolas Babenkoff.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur en informatique. On va parler intelligence artificielle avec vous, puisque les élèves ont aujourd'hui tous les outils pour obtenir la réponse en un clic. Mais est-ce que c'est vraiment apprendre? Vous avez créé Allo Pablo, une application d'IA scolaire qui fait exactement l'inverse. Elle refuse de donner la solution. Elle guide, mais c'est l'élève qui travaille. On en parle dans un instant sur RMC, RMC Story.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 5h41. Bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour.
L'homme du jour, c'est Mahamat Mirzali, blogueur venu d'Azerbaïdjan, réfugié en France depuis 10 ans, qui a été victime d'une tentative d'assassinat à Nantes en 2021.
Et aujourd'hui s'ouvre à Rennes, Virginie, le procès de ses agresseurs présumés.
Et Mahamat Mirzali va arriver au tribunal en voiture blindée, avec des gardes du corps et un gilet pare-balles. Il est réfugié politique en France depuis 2016. Il a déjà été victime de 3 tentatives d'assassinat depuis son arrivée. La plus violente date donc de 2021, quand un commando l'a pris pour cible en l'attaquant au couteau à Nantes en plein jour. Et à partir d'aujourd'hui, pendant une quinzaine de jours, Mahamat Mirzali va faire face aux 9 suspects interpellés pour cette tentative de meurtre en bande organisée. Le blogueur azéri appréhende ce procès. Ça fait des jours qu'il ne dort plus, ne mange plus. Il garde un souvenir précis et douloureux de cette attaque dans sa tête, mais aussi sur son corps meurtri, criblé de cicatrices. Il a reçu une quinzaine de coups de couteau. La cicatrice la plus visible est derrière la nuque, derrière son visage fin et sa barbe de 3 jours bien entretenue. Il vit dans la peur permanente. Il continue aujourd'hui de recevoir des menaces de mort régulières. Et Mahamat Mirzali sait très bien que ces menaces ne cesseront pas avec ce procès.
Cette attaque de 2021, on peut le dire, elle a été particulièrement violente.
Ah oui, ce jour-là, Mahamat Mirzali était sorti pour photographier les environs de la gare maritime de Nantes. Il marchait seul sur un parking et il a senti une présence derrière lui, 2 hommes qui le suivaient. Il tente alors de les semer, mais ça ne fonctionne pas. Alors il appelle la police le 17, mais à cette époque, il parlait pas encore très bien le français. Il parvient pas à convaincre les policiers du danger qu'il court. C'est alors qu'une voiture s'arrête et que les agresseurs lui tombent dessus. Ils ont tous fui à l'étranger ensuite, notamment en Azerbaïdjan. Les 9 membres présumés du commando jugés à partir d'aujourd'hui appartiennent au groupe mafieux VOR, dont le nom signifie les tueurs dans la loi, d'après l'avocat de Mahamat Mirzali.
Et c'est parce qu'il critique le régime azéri que Mahamat Mirzali est pris pour cible.
Le blogueur à Atkitnir, il est né en 1994 à l'ouest de Bakou et son père est un opposant au régime d'Ilan Aliyev depuis l'arrivée de ce dernier au pouvoir en 2003. Mahamat Mirzali n'était qu'un enfant à l'époque, mais il a grandi, il a participé à des manifestations contre le régime. Il n'a pas pu s'inscrire comme il le voulait en fac d'histoire. Il a fait un service militaire de 18 mois où il raconte qu'il a été tabassé à de nombreuses reprises en raison de son hostilité au pouvoir en place. Alors en 2015, il s'est lancé. Il a créé un blog qu'il a appelé Made in Azerbaïdjan pour dénoncer la corruption, les atteintes à la démocratie et aux droits humains dans son pays. La réponse ne s'est pas faite attendre. Directement, il a été menacé, il a subi des violences et c'est pour ça qu'il s'est réfugié en France avec le statut de réfugié politique.
Et il a une vie de reclus en France.
Ouais, alors d'abord, en arrivant, Mahamat Mirzali s'est un peu déplacé. Il a vécu à Paris, à Laval, à Perpignan, avant de s'installer à Nantes. C'est déjà dans cette ville qu'il a subi sa première attaque en 2020. À ce moment-là, il était livreur pour un restaurant. Il a reçu une balle dans l'épaule alors qu'il était au volant de sa voiture. Mais depuis l'attaque de 2021, il vit effectivement en reclus. Il appelle ça une prison. Il doit sans arrêt changer de numéro de téléphone. Il peut même pas voir d'amis parce qu'il veut pas les mettre en danger. Et même ses parents ne connaissent pas son adresse. Il n'arrive pas à avoir de nouvelles de sa sœur qui, elle, est restée coincée en Azerbaïdjan et qui subit un affreux chantage à la sextape. Mahamat Mirzali vit sous antidépresseur depuis des années. Il dit que sa vie, elle est morte. À partir d'aujourd'hui, il va donc faire face à ses agresseurs. Mais il sait qu'au pays, sa tête est toujours mise à prix. Des photos de lui passent dans les médias nationaux avec la mention recherchée. Les menaces viennent d'ailleurs du plus haut niveau de l'État. En 2020, le vice-président de l'Assemblée nationale à Bakou avait posté sur ses réseaux le message « Rira bien, qui rira le dernier ?» avec la copie du passeport de Mahamat Mirzali.
Merci beaucoup Virginie Fulpin, Mahamat Mirzali, l'homme du jour ce matin. Il est 5h45 sur RMC et RMC Story. On va accueillir Virginie à présent qui nous appelle du Nord, infirmière libérale dans le Nord. Bonjour Virginie.
Bonjour Virginie.
Bonjour.
Comment
bonjour,
ça va ce matin?
Très bien.
Bon, est-ce que vous avez pu identifier le mot caché?
Oui, touffeur.
Exactement.
Exactement.
Et on a appris un mot et je peux vous garantir que toute cette semaine, on va continuer à l'utiliser. Touffeur, une chaleur accablante. Je crois qu'il est de saison et qu'il est facile à utiliser. Par contre, il n'y a qu'aujourd'hui qui permet de gagner un cadeau. Et c'est pour vous, Virginie, la montre Kelton, l'icône pop de l'horlogerie française qui fête ses 70 ans. On vous envoie ça dans le Nord, Virginie.
Super, merci beaucoup, merci.
Félicitations.
Et c'est pas fini, puisque c'est le moment de vous inscrire à notre jeu, le jeu de la liste des 26. Vous pourrez remporter 10 000 euros ou le pack Coupe du Monde avec le vidéoprojecteur, le maillot des Bleus, le ballon officiel et la boîte Lego du trophée. Venez sélectionner un joueur dans la liste des 26 et vous repartirez forcément avec un super cadeau. Vous envoyez liste au 7-32-16, liste au 7-32-16. Vous avez 5 minutes très exactement pour jouer jusqu'à 5h51. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et si la verse, le retour de Vianney, c'est confirmé. Après s'être retiré pour construire une cabane dans les bois, Vianney le charpentier, comme il s'est surnommé, reclus avec un lit, un poêle, un piano. Il en a fait l'annonce hier, une nouvelle tournée à partir du printemps 2027. Voilà un an qu'il s'était éloigné des scènes et des plateaux. On l'avait raconté dans sa cabane, il avait pris de quoi enregistrer de nouvelles chansons. Et dans une vidéo publiée sur Instagram, on voit que la barbe a poussé, les cheveux aussi, parce que Hermite, c'est quand même aussi un look. On le voit dessiner une carte de France et pointer les villes, peindre au pinceau une carte de France et pointer les villes de sa tournée Paris, Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux. De mars 2027 à mars 2028, attention, la billetterie ouvre demain à 10h. Demain matin, il y aura de la demande. Ça fait 5 ans que Vianney n'avait plus pris la route pour une vraie tournée. C'est classique quand même. Histoire d'être sûr que vous l'ayez dans la tête toute la journée. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 5h47 et c'est l'heure du rappel des trois grands titres de l'actualise.
Une réunion interministérielle ce jeudi et déjà 8 morts depuis le début de cet épisode de chaleur inédit. 8 départements basculent en vigilance orange canicule cet après-midi. C'est du jamais vu pour un mois de mai. Les suites de l'enquête sur la mort du jeune de 11 ans retrouvé avec une serviette autour du cou dimanche sur les bords de la Vilaine à Rennes. Deux mineurs de 15 et 16 ans ont été placés en garde à vue. Et puis à Roland-Garros, clap de fin pour Gaël Monfils qui s'est incliné face à son compatriote Hugo Gaston. 4 Français se sont qualifiés hier, 9 sont en lice aujourd'hui.
Il est 5h48.
RMC, à votre service.
Alors ce matin, on a parlé de l'alerte du pape, nouveau pourfendeur de l'intelligence artificielle. On a parlé du débat autour de la vidéosurveillance algorithmique. Là, il y a les pour, les contre, il y a vos messages, on les lira évidemment ce matin. Il y a aussi ce que l'IA peut nous apporter. Bonjour Nicolas Bavankov.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur en informatique et vous avez lancé il y a quelques mois une application baptisée Allo Pablo. C'est disponible sur iOS et sur Android. Les épreuves du bac pro, elles ont déjà commencé. Le bac général arrive, le bac technologique aussi et le brevet pour les collégiens. Et alors justement, le principe de votre appli, c'est d'aider ces élèves à réviser avec l'IA, mais sans jamais leur donner la réponse. Vous avez 4 enfants, c'est eux qui vous ont donné l'idée de cette application ?
Oui, donc il y en a 2 qui sont au collège, Juliette et Oscar. Bon, donc comme beaucoup d'entre eux, ils ont essayé ChatGPT pour faire leurs devoirs. Donc de leur point de vue, c'est assez magique.
Ouais, ils prennent fait leurs devoirs. Ouais.
Exact. Oui, c'est ça. Ils prennent l'exercice en photo et il suffit de recopier la réponse. En tant que parent, on comprend vite que ça pose un problème. L'exercice est fait, il y a pas de problème. La leçon n'est pas forcément comprise et le jour du contrôle, l'IA elle sera pas là pour les aider. Donc qu'on le veuille ou non, la plupart des enfants au moins essayeront d'utiliser l'IA. Donc c'est à nous de créer les bons outils. Et donc comme je suis développeur, je me suis dit que c'était l'occasion de créer quelque chose. Et donc c'est à ce moment-là qu'est né Allo Pablo.
Ça marche pour toutes les matières, Allo Pablo ?
Oui, ça marche aussi bien pour le français, pour la physique, les maths, histoire, géo et même pour les langues. Donc ça s'adapte et c'est même dans... ça peut discuter dans l'ensemble des langues.
Mais alors comment ça fonctionne concrètement ? Je suis collégienne, je dois réviser mon brevet. Qu'est-ce que je fais avec Allo Pablo ?
Donc, la question se pose principalement quand l'enfant est bloqué sur un exercice.
Ok.
Donc, là, il n'a personne à sa disposition. Donc, il prend son énoncé en photo. Et là, une conversation s'engage avec Allo Pablo. Donc, de questions en réponse. As-tu pensé à utiliser le théorème de Pythagore ou connais-tu les règles d'accord du participe passé ? Et de fil en aiguille, l'enfant commence à comprendre et est guidé vers la réponse. Mais à aucun moment... Allo Pablo nous donne la réponse à sa place.
C'est pour le pousser à réfléchir et pas lui donner un prêt à manger.
Mais donc, allez-y.
Vous êtes quand même dans un secteur qui devient extrêmement concurrentiel. Chaque semaine, il y a une nouvelle application scolaire. On a parlé avec les gens de Wilgo. Il y a plein d'autres applis. Quel retour est-ce que vous avez spécifiquement sur Allo Pablo ?
Sur Allo Pablo, ce qu'on a essayé de guider, c'est la simplicité d'utilisation. C'est une fonction. En fait, quand on lance l'application, c'est tout de suite appareil photo. Il y a une fonction, c'est simple, c'est assez clair. Mm-hmm. Parce que justement, en fait, il y a beaucoup d'applications qui sont très complexes. Il y a beaucoup de menus, il y a beaucoup, il faut s'inscrire. Là, il n'y a même pas d'inscription. Elle se lance tout de suite, c'est très simple.
C'est gratuit ou c'est payant?
C'est payant au bout d'un certain nombre d'usages. Mm-hmm. Mais en fait, il y a la possibilité de l'utiliser largement.
Et en termes de contenu, comment vous avez nourri Allo Pablo et l'intelligence artificielle? Vous vous basez sur les programmes de l'éducation nationale? Vous avez fait comment?
En fait, elle est connectée à l'ensemble des IA qui sont existantes.
D'accord.
Parce qu'on n'aurait pas pu faire quelque chose d'aussi solide que ChatGPT, parce que, par exemple, on a vu, même il y a un an, elle se trompait beaucoup, ces choses-là. Mmh. Donc, en fait, on est obligé de s'appuyer sur l'existant. Et nous, en fait, on cadre la demande. Donc, on essaye de clarifier.
C'est ça, votre programme, en fait. Votre programme, il va prendre ce que font toutes les IA, mais il va essayer de sortir le fait d'avoir juste la réponse, mais d'avoir quelque chose de plus pédagogique.
C'est ça, de cadrer vraiment.
Mais comment vous vous assurez qu'il n'y ait pas d'erreur? Alors, on n'induise pas l'enfant en erreur, quand bien même on ne lui donne pas la solution finale, ne serait-ce que dans le mode de pensée, en fait.
Alors, sur le principe, il faut partir du principe qu'une IA peut se tromper. On l'a bien vu, justement, il y a un an, quand elles sont sorties les premières. Ça progresse, mais il faut partir du principe qu'elle peut se tromper, comme un parent peut se tromper quand il est l'aide sur les exercices de maths.
Mais moi, je vous tiendrai au courant. Je vais essayer. Là, il y a de la trigonométrie un peu au programme dans les jours qui viennent. Nicolas Bavankov, fondateur d'Allo Pablo, une appli pour aider finalement les collégiens et lycéens, mais sans pour autant leur mâcher tout le travail. Merci beaucoup.
Merci
d'être venu présenter Allo Pablo. Je suis sûr qu'il y a plein de parents que ça peut intéresser. Christophe est en ligne avec nous. On est en Gironde avec Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour à tous.
D'un mot, j'ai demandé à vous toutes et tous de nous appeler, de nous dire combien vous avez là sur le tableau de bord ce matin avec cette semaine de mai historique. On peut dire historique, Géraldine? C'est pas galvaudé.
J'ai vu ça. Non.
Vous voyez, je parle sous le contrôle de Géraldine. Christophe, vous avez combien là?
Là, actuellement, j'ai 19 degrés.
19 degrés, il est pas 6 heures du matin. Hein. Et c'était voilà. Chaud hier après-midi, Christophe?
Ah, très chaud, oui. Très chaud. Donc, j'ai eu de la chance d'avoir des amis qui ont une piscine. Donc, pour les enfants, parce qu'à la maison, c'est une maison sans clim. Et que effectivement, quand le soleil il tape, même avec les volets fermés, ça monte très vite en température dans la maison.
Vous dire qu'il n'y a pas la piscine à la maison, mais il y a le tuyau d'arrosage qui a bien servi. Hein. Christophe, merci beaucoup. Merci de votre appel au 32-16 ce matin. Comme Christophe et comme tous ceux qui nous envoient des photos de leur température chez eux, vous continuez à réagir et vous serez en direct sur RMC avec nous. Merci Christophe, 5h53.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
On le retrouve à 8h45 pour Face à Canteloup. Tout de suite, on se met déjà dans l'ambiance avec le meilleur de Nicolas Canteloup.
Alain Bauer était l'invité du Face à Face et il est encore avec nous. Rebonjour Alain Bauer. Alors qu'hier, un accord entre les États-Unis et l'Iran semblait imminent, il n'a pas eu lieu. C'est plutôt surprenant.
Pas du tout. C'était totalement prévisible, notamment sur la question de l'uranium. Donald Trump ne veut pas que l'uranium soit enrichi, il veut que ce soit lui qui soit enrichi. Vous savez, le nucléaire, c'est compliqué. Je l'explique d'ailleurs dans mon nouveau livre qui sortira cet après-midi et qui s'intitule « Construire une bombe atomique pour les nuls », un livre que je déconseille aux enfants de moins de 12 ans.
Alors, donc vous pensez qu'on a eu droit à un énième revirement de Donald Trump?
Pas du tout. Donald Trump ne change jamais d'avis puisqu'il n'a tout simplement pas d'avis. Et vous le sauriez si vous aviez lu, mon cher monsieur Béliard, le livre pour enfants que j'ai sorti avant-hier et qui s'intitule « I don't give a fuck », les mots de Donald Trump expliqués aux tout-petits. Hein, et qui contient, je le précise pour les parents, des coloriages. Donc c'est très accessible.
Alors on peut quand même espérer que les États-Unis contraignent l'Iran à signer un accord dans les prochains jours?
Pas du tout. Les États-Unis ont à l'évidence perdu leur puissance et leur influence, que ce soit politique ou même d'ailleurs culturelle. D'ailleurs, Hollywood, aujourd'hui, a moins d'influence. J'en parlerai d'ailleurs dans mon prochain livre qui s'intitule « La décadence de l'Amérique » de Paul Newman à Laurent Neumann.
Eh bien, merci Alain Bauer. Comme toujours, c'était très clair.
Absolument pas.
Non.
Ah là, je vous ai bien eu. Hein, vous attendiez un petit pas du tout.
Oui, c'est vrai.
Eh bien, pas du tout. En tout cas, tout le plaisir était pour moi. J'étais ravi, une fois de plus, de vous faire passer pour des cons.
Merci Alain Bauer. Et sans plus attendre, on retrouve Pascal Praud pour les titres de l'actualité.
Et oui, je chausse mes lunettes pour voir de plus près. Mais non, ce n'est pas Pauline, c'est Mathieu. Oui. Bonjour Mathieu, bonjour. Que dis-je ? Saint Mathieu, seul, un des seuls qui sert l'office un jour de Pentecôte pour les fidèles de la paroisse d'RMC. Allez Mathieu, je vous emmène, je vous promène à Cannes où la Palme d'Or a été décernée, vous le savez, au film Fjord du réalisateur roumain Christian Mungiu. Bon, bref, voilà ce qui se passe quand on laisse entrer des Roumains chez nous. Voilà, ils nous volent même nos récompenses au-delà de notre travail, les récompenses aussi. Enfin, voilà, c'est déjà beau qu'on ait pu avoir la retransmission de la cérémonie de la Palme d'Or, parce que ces amis roms auraient très bien pu voler, on ne sait pas, tous les câbles chargés de cuivre. Mais la sécurité a bien fait son travail, à la bonne heure. Allez, on continue dans l'artistique. Le Pont Neuf a été emballé. Voilà, encore un délire, je suppose, d'un artiste bobo gauchiste subventionné. Mais plutôt que de notre magnifique Pont Neuf, autant emballer quelque chose de moche, comme je ne sais pas, moi, le Centre Pompidou ou la Seine-Saint-Denis. Ou quelque chose d'inutile, je ne sais pas, les locaux de France Inter. Voilà.
Merci, Nicolas.